Installez-vous confortablement, nous allons continuer notre parcours spirituel en ce qui concerne l'exploration du monde spirituel. Le dimanche dernier, nous avons pu parler du premier ciel et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous invite encore une fois de plus à la prière pour que l'intelligence du ciel nous soit accordée. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Que la lumière de ta grâce inonde notre âme. Et que par la lumière de ta parole et de ta connaissance, tu apportes l'éternel Père de gloire, la clarté dans les zones d'ombre de notre pensée. Que tu restaures, Seigneur Dieu, nos croyances et que tu rétablis notre foi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Lisons le premier texte. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais. Est-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais moi-même je ne me glorifierai pas sinon de ma faiblesse. C'était la vision de l'apôtre Paul. Le monde spirituel est un monde qui entoure le monde physique. Et au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui suppose que les cieux sont multiples. Nous avons pu voir le premier ciel que nos yeux peuvent contempler, très bien décrit dans le livre de Somme chapitre 19, et qui fait figure de voûte, d'un toit qui nous protège contre un monde impitoyable, mais qui se prolonge dans les galaxies. Les astronomes avaient estimé à peu près à 500 millions de galaxies. C'est pour dire que le premier ciel peut représenter le monde physique que nous voyons, mais il peut représenter les mondes tangibles mais spirituels que nos yeux ne voient pas. Mais entre le premier ciel, la Bible parle du troisième. Il n'est pas parlé du deuxième, mais on en déduit que s'il y a un premier, il y a un troisième, c'est qu'il y a un deuxième. Mais est-ce que le deuxième, il a les mêmes caractéristiques que le monde physique? Pas tout à fait. Et c'est l'objet de notre étude ce matin. Le deuxième ciel n'est pas explicitement tracé dans l'Écriture. Sachant l'existence du premier et du troisième ciel, nous déduisons qu'il existe un deuxième ciel dont l'existence est irréfutable. Il n'est pas un lieu tangible ni visible comme le premier ciel. Mais cependant, il appartient à la dimension du monde spirituel. C'est un royaume invisible qui va au-delà du physique, mais qui exerce une réelle influence puissante et je dirais même incontestable sur notre vie sur terre. C'est dire que rien n'est isolé dans la création. Même ce que nos yeux ne voient pas influence ce que nos yeux voient. Et je peux vous avouer que le monde spirituel est des millions de fois beaucoup plus large, beaucoup plus puissante que le monde physique. Oui, c'est un royaume invisible qui va au-delà du physique, mais qui exerce une influence sur notre monde. Dans ce domaine, c'est là où se déroulent toutes les batailles, qu'on appelle les batailles spirituelles. Les batailles de la foi, ces types de batailles auxquelles nous sommes livrés au quotidien, mais qui façonnent parfois nos caractères, notre manière de penser, nos attitudes, nos activités, et influencent même nos pensées. Elles définissent en nous ce qu'on appelle les principautés, les mentalités. Ce sont les principautés qui définissent les mentalités. Et donc, dans ce monde, il y a une sorte de hiérarchie du monde spirituel, chacun avec son influence. Pour mieux comprendre, et c'est la meilleure chose à faire, c'est de prendre des exemples. Trois exemples dans l'Ancien Testament, deux illustrations dans le second, nous permettront de comprendre quelle est la dynamique de cet espace dont nous parlons ce matin. Regardons maintenant deux rois, chapitre 6, verset 14, qui fait l'objet d'une prédication lors de la prière en commun, à laquelle les gens n'ont pas eu beaucoup de temps de venir, mais ce serait un rattrapage. Deux rois, chapitre 6, verset 14. Alors le contexte. Le roi de Syrie veut assiéger Samarie. Et il se trouve que à Samarie se trouve le prophète Élisée. Mais quand le roi de Syrie fait son conseil de guerre, en fixant un endroit, ils doivent attaquer. Il se trouve que la partie adverse de l'autre côté était au courant. Et chaque fois, leur projet échoue. Mais il se dit, qu'est-ce que parmi vous, là, vous n'avez pas un mouchard ou un corbeau qui est en train de vendre les informations aux adversaires? Et un des généraux lui a dit, il se trouve dans ce pays-là un prophète qui voit, qui entend tout. Tout ce que tu dis dans ta chambre, il est au courant. Alors, il a envoyé une troupe pour aller arrêter Élisée à Dothan. Et voilà la suite de l'histoire. Il se réveille le matin avec son serviteur. Il voit ce spectacle. Le roi dit, allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vient lui rapporter qu'il était à Dothan. Et il y avait des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur apeuré dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Israël. Vous avez vu le spectacle? Le jeune garçon, lui, il est confiné dans son monde physique, dans lequel nous avons été formatés depuis le ventre de notre mère. Et le monde physique dans lequel nous sommes nous rétrécissent et nous définissent dans une sorte de petitesse. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, le jeune homme, il sort, il voit une troupe de chevaux ennemis. L'homme de Dieu sort tranquille, en train de prendre son petit déjeuner, dans un calme olympien. Et le garçon, poussé de frayeur, en train de crier. Et l'homme de Dieu a dit, ah, tu ne vois pas ce que je vois là. Si tu voyais ce que je vois, tu seras dans le calme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Pas les yeux physiques, vous comprenez bien. Ouvre-lui les yeux. Qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qu'il ne voit pas. Si au moins il pouvait observer ce qui se passe dans le monde spirituel, il se calmerait. Et quand il a prié pour lui, ses yeux sont ouverts. C'est pour dire qu'il y a dans le monde spirituel, il y a des trafics qui se font. Il y a des activités qui se déroulent et dont on n'a pas conscience et qui nous influencent énormément. Parfois, vous vous levez le matin, Vous vous sentez complètement cassé, brisé, fatigué, et vous vous demandez pourquoi. Il y a des fois que vous avez un projet élaboré, bien ficelé, et au dernier moment, tout tourne en vrille. Et sans compter parfois les pulsions des désirs que nous avons et qui sont des désirs coupables. Ce n'est pas rien. Un autre exemple. Caïn et Abel, qui ont inauguré la communauté de vie humaine sur une fraternité brisée. Il y a un qui a offert à Dieu son offrande, et il y a un autre aussi qui a offert à Dieu son offrande. Même geste, mais avec des motivations derrière différentes. La preuve en est que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il a refusé l'offrande de Caïn. Et pour ceci, Caïn a manifesté une certaine colère qui l'a conduit jusqu'à tuer son frère. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qui a inspiré cet acte-là? Donc on voit que les hommes sur la terre, c'est comme des jeux. Il y a des puissances là-bas qui nous manipulent, comme des pions. Et ça dépend à quelle puissance nous sommes soumises. C'est ça la question. Là, on voit que Caïn, il est manipulé par une force diabolique. Et on voit que Abel, il était poussé par l'Esprit du Seigneur. Et vous pouvez pousser l'exemple beaucoup plus loin. Un autre exemple, ça c'est encore beaucoup plus clair, dans Daniel. Daniel chapitre 10, Daniel a prié pendant 21 jours pour que Dieu vienne à son secours. Il a prié, le Seigneur l'a exaucé. Sauf qu'il s'est produit quelque chose. La prière de Daniel a été exaucée, mais cependant Daniel ne voit pas la manifestation de sa prière. Voici ce que dit la Bible. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, quand il a prié Daniel, Dieu l'a exaucé, mais quand il ne voit pas la manifestation de la prière, Dieu a envoyé un ange pour combattre. Et c'est ce que dit la Bible. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé par Dieu pour venir à ton secours. Lorsqu'il me dit cette parole, moi, Daniel, je me mis debout en frémissant. Il me dit encore, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Alors, c'est pour dire que dans les territoires, il y a des forces spirituelles beaucoup plus puissantes qu'on appelle les autorités qui agissent. Et dans le cas de Daniel, au niveau des Perses, une autorité diabolique est intervenue pour bloquer la prière. Et il fallait que Dieu dépêche Michel, l'ange de guerre qui défend Israël et qui, par extension, défend les enfants de Dieu, rentre en scène pour que le ciel soit dégagé et que la prière de Daniel intervienne. Là, Daniel a ouvert sa bouche pour parler à Dieu. Quand vous suivez la suite de l'histoire, il a dit que les paroles qui étaient sorties de ta bouche, moi, Dieu, je l'ai entendue. Ce n'est pas une prière silencieuse. Écoutez-moi. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, et quand on étudie parole de Dieu, il s'agit de son. Il s'agit de l'harmonie. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous nous mettons en harmonie avec les ondes divines. Lorsque nous ne proclamons pas la parole du Seigneur, la parole de Dieu vient contre nous. Et nous voyons très bien comment les choses se passent. Je me souviens quand on est en train de préparer nos chants pour Noël, notre sœur nous conduisait avec les différentes voix. Et moi, je faisais du ténor. Et comme je ne connaissais pas la musique, j'écoute le son et je répète. Mais en ce moment-là, je n'ai pas bien intégré ce qui a été fait. Et quand je me mettais à chanter, j'ai complètement détonné la chanson. Pas agréable à écouter. Et souvent, nous nous détonnons dans notre communion avec Dieu par nos paroles. Or, ici, la parole que Daniel a prononcée, c'est des paroles exactes. Lisez les prières de Daniel. C'est des paroles calées sur la parole de Dieu. C'est des paroles calées sur les Écritures. Et en le prononçant, il se met en harmonie avec Dieu. C'est pour ça que la prière que nous formulons est de manière verbalisée. Envoie des ondes positives. Notre monde est couvert de paroles méchantes. Notre monde est couvert de paroles de péché. Des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu, sur lesquelles les mauvais esprits travaillent. Regardez la télévision. Écoutez autour de vous. Il n'y a jamais de paroles qui calment le cœur. Allez sur des routes. Vous allez voir comment les automobilistes s'envoient et te traitent des pigeons. Même il y en a d'autres qui descendent de leur voiture pour en venir au point à la main, parce que les gens sont irascibles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous mettons en accord avec le Seigneur, la paix de Dieu inonde notre cœur et notre environnement est un environnement paisible. Sinon, nous devenons la caisse de résonance du désordre qui se passe dans les cœurs et nous les amplifions. Et en les amplifiant, nous ouvrons la porte à tous les démons. Et le corps humain n'est pas fait pour être dans l'agitation. Les atomes que Dieu a mis en nous, qui forment notre corps, n'est pas fait pour être dans l'agitation. On tombe malade parfois. Les atomes vont enregistrer des ondes négatives et nous rendre malades. Et les causes de beaucoup de maladies dont nous souffrons, ils prennent leur source là. Faisons attention. On vit un monde hostile. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. » Le monde est venu détruire. Mais il y a un qui a cette mission. Le diable. Alors c'est le lieu où les anges et les démons s'affrontent, le deuxième ciel. Ils interagissent pour influencer nos pensées, pour façonner nos actions et parfois pour influencer nos décisions. Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne le royaume et en face de lui se trouvent des groupes religieux qu'il considère comme des fils de diable. C'est lui qui le dit. Dans Jean chapitre 8, il dit ceci. « Vous, scribes et pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Mais moi, Jésus, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui donc de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est Dieu, et celui qui est de Dieu, écoute les paroles que moi, Jésus, je dis. Mais vous, les pharisiens, vous ne voulez pas m'écouter parce que vous n'êtes pas de Dieu. Deux influences. Ceux qui sont disposés à écouter la voix du Seigneur, on voit sous quelles influences ils évoluent. On est dans le monde religieux, là. N'allez pas demander aux scribes ou aux pharisiens que vous ne connaissez pas la Bible. Ils le connaissent sur les bouts de doigts. Mais sauf leur connaissance ne les amène pas à se soumettre à Dieu, à agir contre Dieu. L'ennemi s'est servi même des matériaux, des outils religieux pour combattre la vérité. Donc il faut l'esprit de la parole. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est très fondamental. Dieu nous sort du monde par la nouvelle naissance. Pas simplement par le fait que nous sommes des chrétiens de nom. Il faut naître de nouveau. La naissance nouvelle qui consiste à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur nous soustrait de l'influence du diable et nous place dans le royaume de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et même s'il nous arrive de temps en temps de commettre une faute, on ne pêche pas. On commet des fautes, on n'est pas pécheur par nature. Car celui qui est en Dieu ne pêche plus. Celui qui est en Dieu ne pêche plus. Commettre une faute, oui, de temps en temps, ça arrive. Mais le sang de Jésus-Christ intervient. J'y reviendrai. Mais maintenant, vous allez vous poser la question, quelles sont les forces qui agissent bonnes et quelles sont les forces qui agissent en mauvais? Oui, il y a deux forces opposées. Il y a les bonnes et les mauvaises. Il y a les forces qu'on appelle les forces du mal. Mais d'où viennent les forces du mal? Suivez mon regard. Il est décrit dans 4 livres, sous forme allégorique. Dans Ézéchiel chapitre 28, dans Ésaïe chapitre 14, dans Apocalypse chapitre 12. Et je vais prendre un à un, vous allez voir. Dans Ézéchiel 28, il est dit, « Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le jour où Dieu a trouvé le mal en toi. » De qui parle-t-on? On parle d'un esprit qui était super archange, parce que Dieu en a créé 4 les archanges. Il y a un qui s'appelle Lucifer, qui est l'ange de la lumière, mais en qui Dieu a trouvé quelque chose. Verset 14. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins de Septentrion. Je monterai au sommet des nuages et je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts et dans les profondeurs de l'abîme. Qui veut être semblable au Très-Haut? C'est cet ange Lucifer à qui Dieu a donné sagesse, pouvoir. Il va entrer en rébellion contre le siège de Dieu. Et il va entraîner avec lui tous les anges qui lui étaient soumis. Et Dieu va le précipiter. De la présence de Dieu au troisième ciel, Dieu va le précipiter, il va tomber dans le second. Parce que les cieux, second, premier, écoutez bien, ces deux cieux vont être nettoyés. Ces deux cieux sont liés au temps. Et le temps va être détruit. Dieu, il est hors du temps. Comme il va détruire le temps, il ne veut pas que nous soyons dans le premier ciel, dans le deuxième ciel. Parce que sa colère va balayer. C'est pour ça qu'il a demandé, mais qui enverrai-je pour venir sauver les miens? Jésus a dit que je viens. Et Jésus a quitté le premier ciel. Il est descendu dans le second. Et il est venu sur la terre des hommes pour proposer l'évangile. Et lorsque nous croyons en lui, il nous prend, il nous ramène spirituellement dans le troisième ciel, au-dessus de tout nom, pour que nous ne mourions plus. Quand on est dans l'éternité, on ne meurt plus. Et quand on est dans cette position avec Dieu, nous sommes au-dessus des dominations. Nous sommes au-dessus des principautés. Nous sommes au-dessus des esprits méchants. Nous sommes au-dessus des forces sataniques. Ils ne peuvent rien faire contre nous. Le diable agit, c'est parce qu'on lui donne le pouvoir. Jésus l'a dépouillé. Il n'est rien. C'est un lion qui n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Devant un chrétien né de nouveau, le diable qui est un lion, il agit comme un chat. Et c'est cette autorité que Dieu a donnée à l'Église. Sauf qu'on ne la maîtrise pas. On parle de l'autorité du croyant. Là encore, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé dans l'autorité du croyant. On est dans les béabas là. Il y a tellement de choses à comprendre dans le monde de l'esprit. Parce que les temps qui vont arriver vont être des temps très difficiles. Je vous avoue, c'est très difficile. Et Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous donner la provision pour que nous soyons capables de faire face au temps qui arrive. Mais jusqu'à quand allons-nous grandir? Apocalypse 12. Encore une de ses actions. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel, le chef des anges qui nous protège, et les anges du diable combattirent. On l'appelle le dragon. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Donc on a deux batailles cosmiques. D'un autre côté, Satan avec les démons, qui sont des anges déchus. Et de l'autre côté, nous avons les anges de Dieu qui combattirent. Mais le dragon ne remportait pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui dit, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance, il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité de la main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel, c'est-à-dire hors de la présence de Dieu. Mais eux, ils l'ont vécu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Réjouissez-vous donc, ciel, et vous qui habitez au ciel, c'est-à-dire nous les chrétiens, réjouissez-vous, mais malheur à la terre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont attachés à la terre et à la mer, malheur à vous. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste que peu de temps. C'est clair? Quoi dire? Avec de telles vérités, vous pensez que nos comportements ne doivent pas changer? Nos réflexions ne doivent pas changer? Nos priorités ne doivent pas changer devant une telle bataille? Ce n'est pas une bataille pour gagner la vie, hein? Ce n'est pas une bataille pour payer les factures. Ce n'est pas une bataille pour la réussite de nos enfants. Mais c'est une bataille pour la mort éternelle et pour la vie éternelle. C'est dans ce royaume que se manifeste la volonté de Dieu. C'est dans ce royaume où est accompli le destin de Dieu qui impacte notre parcours sur terre. Bien que nous ne puissions pas voir ce qui se passe dans ce royaume, les implications qu'elle exerce sont profondes dans notre vie. Ainsi, le deuxième ciel que nous pouvons dire nous rappelle que ce que nous affrontons dans notre existence ne se limite pas au monde physique. Nos batailles quotidiennes, qu'elles soient internes, émotionnelles ou externes, ou souvent, ont souvent leurs racines dans le domaine spirituel. Voilà que la Bible a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre le sang. Tu peux avoir de mon verre d'eau là. Excusez-moi. Merci. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ce ciel révèle que beaucoup de forces que nous affrontons opèrent dans ce domaine. Les forces du mensonge, les forces des ténèbres, dont le but avoué est de falsifier, de contrefaire, de détruire, d'égorger, de détourner le plan de Dieu. Bref, c'est sa mission. Le diable, il est fait pour détruire. Ah oui, tout ce que Dieu touche, ça lui donne de l'allergie, il veut toucher pour tout salir. C'est sa mission. C'est un destructeur. Vous savez, la bataille, quand on fait la guerre, c'est pour détruire, de part et d'autre. Que ce soit la force du bien, que ce soit la force du mal. Si lui, le diable, sa mission est de détruire tout ce que Dieu a fait, mais la mission de Jésus est de faire quoi alors? Jésus n'est pas venu pour cajoler le diable. Il est dit de lui dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Alors souvent, les chrétiens sont saisis par un syndrome de Stockholm. Peut-être sans le savoir. Vous savez le syndrome de Stockholm? Qui le sait? Oui. C'est celui qui prend fait et cause pour son ravisseur. Le diable veut nous ravir et nous défendons le diable. Jésus est venu pour nous délivrer, mais non. Au lieu de tomber dans les bras du Seigneur Jésus-Christ, nous nous réfugions encore du côté de l'ennemi. Mais Jésus a dit, oh, je suis venu pour te délivrer, mais je te tends la main. Ah oui. C'est trivial cette image que je donne, mais elle dit toute la vérité. Nous confessons Jésus que de bouche, mais nos actions montrent que nous ne sommes pas avec lui. Nos priorités montrent que nous ne sommes pas avec lui. Souvent, nous nous accrochons à ce qui est apparent, tentant parfois de les justifier logiquement. Cependant, en réalité, il existe un code programmé pour créer toutes ces interactions et leurs résultats. Voilà. Vous avez une télécommande, non? De la télé. Vous restez dans votre canapé, allez hop, vous changez. La chaîne ne vous convient pas, vous changez. Vous ne bougez pas, mais vous influencez l'écran. Cet acte est rendu possible par deux réalités. C'est que dans l'appareil télévisuel, il y a un récepteur. Et vous, vous avez une télécommande avec un émetteur. Et vous pouvez influencer parce qu'il y a un récepteur. Dans le ciel, il y a des émetteurs. Le monde du diable et le monde de Jésus. Et chez nous, quel type de récepteur nous avons? Si nous avons des récepteurs qui répondent à M6 du diable, mais nous répondons avec lui dans la même longueur d'onde. Mais si nous sommes branchés avec Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous influence. Autant l'Esprit de Dieu veut entrer en nous pour se servir de nous, pour accomplir la volonté de Dieu, autant le diable aussi veut déverser son esprit maléfique dans des humains pour accomplir les actions du diable. Vous pouvez imaginer quelqu'un comme ça qui se lève, qui prend une petite fille de 12, 3 ou 4 ans et qui le détruit, qui le viole, des gens qui... Vous pensez que ça vient d'où? Dites-moi, ça vient d'où? Voilà ce que fait l'ennemi. Et on n'a encore rien vu de ce qui va arriver. C'est dans ce lieu où les règles spirituelles sont établies. Et c'est dans ce lieu où le monde est gouverné. Et ça, ça a eu une influence également sur le plan politique, sur le plan territorial. Regardez notre monde politique. Moi, je regarde avec discernement les choses qui se passent. Et je n'entends rien de la part d'eux. Rien, 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 rien du tout. Si vous attendez quelque chose de la part de ce monde, vous perdez votre temps, vous serez déçus. Par contre, si nous attendons de la part de Jésus, le Seigneur se servira de ces gens-là pour accomplir sa volonté. Et nous rendons gloire au Seigneur. Voilà, c'est là où tout se dessine. La règle pour protéger ou la règle pour détruire. Alors, je parle rapidement des forces angéliques. Après avoir parlé du diable, on ne va pas le laisser avoir le dernier mot. Que dit la Bible sur les forces angéliques? Il est important de se rappeler qu'il existe aussi des forces angéliques qui travaillent pour protéger et accomplir les desseins de Dieu dans nos vies, si nous sommes des enfants de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Écoutez bien. Les anges ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter le secours et l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Dites-moi, quels sont ceux qui héritent du salut? N'est-ce pas vous? N'est-ce pas moi? Mais voilà, la Bible dit que nous avons des anges que Dieu a envoyés pour être à nos côtés. Ce n'est pas un langage, un écart de langage, quand il dit que j'ai mon ange gardien. Oui, on a au moins minimum un, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Je ne parle pas de mon angélique. Je suis en train de placer les dispositifs du ciel pour que nous savons comment la bataille commence. Mais là, j'y reviendrai un peu plus tard. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit de Jésus, « Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Voilà, c'est là où Jésus a apporté une raclée au diable, définitivement. Jésus a anéanti la tête de ses contingents. Vous savez, lorsque David a remporté la victoire contre Goliath, toutes les troupes de Philistins ont été emportées. Et donc, quand Jésus remporte la victoire contre le diable, tous les démons qui travaillent pour le compte de l'ennemi, ils sont anéantis. Et ils nous donnent la victoire. On ne vit pas une vie chrétienne pour obtenir la victoire. La victoire, nous l'avons déjà en Jésus. Je m'aperçois que dans certaines communautés, les gens sont en train de prier pour la bagarre. Allez, on tape le diable, tu vas voir aujourd'hui. Mais le diable, il est esprit. Le diable, il est esprit. On a déjà la victoire. On ne prie pas pour avoir la victoire. Priez pour éviter de tomber de là où vous êtes. D'où le terme chuter. Quand on chute d'une hauteur. On est déjà en Christ. Évitez de tomber. Le diable a dit, mais à la croix, si Jésus, tu es le Fils de Dieu, descend. Mais c'est ce que le diable nous dit. Si vous êtes chrétien, descendez de votre croix, là. Ne descendez pas. Descendez pas. Celui qui commet le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Waouh! Mais eux, nous, les enfants de Dieu, nous l'avons vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage que nous avons rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Vous voyez? Ne pas aimer sa vie. Je crois que ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est la réussite de notre vie matérielle, c'est notre aisance. C'est légitime. Mais si nous la mettons en priorité, nous nous trompons. Parce que la Bible a dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là. » Dites-moi, finissez-moi la phrase. Toutes ces choses-là vous seront ? Mais oui. Mais pourquoi on vient inverser la priorité, mes bien-aimés ? Voilà pourquoi nous courons derrière les mirages, on ne reçoit rien là. On n'est jamais content de ce qu'on a. Parce qu'on a inversé l'ordre. Satan et tous ses démons ne peuvent rien contre la puissance déployée au troisième ciel, où siège Dieu éternel. Savoir cela nous aide énormément. Mais la comprendre permet d'avoir le discernement et la sagesse de naviguer dans tous ces différents éléments. Le combat de la foi est le toile de fond de notre foi. Une scène où la confiance en Dieu devient notre bouclier, où la vérité biblique devient une arme, l'épée de l'esprit. Le combat de la foi n'est pas le signe d'une faiblesse, mais une déclaration de dépendance à Dieu. Alors, je termine. Le résumé du parcours de la vie chrétienne est la bataille pour la foi. C'est parce qu'on a la foi en Dieu que le diable attaque. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de problème. Elle est souvent décrite comme un voyage. Et au cœur de ce périple se trouvent deux concepts puissants. Le premier, c'est le combat spirituel qui se livre au-dessus de nous, à l'intérieur de laquelle se mène le combat de la foi pour préserver la vérité. Ces deux idées, bien qu'interconnectées, apportent une perspective distincte sur la manière dont nous, croyants, enfants de Dieu, devons marcher, naviguer, réfléchir, agir dans le compte du royaume du Seigneur. Nous avons été envoyés sur la terre pour accomplir la mission de Dieu, comme Adam et Ève. Mais l'ennemi veut toujours s'opposer. Et dans cette mission, Adam et Ève n'avaient pas été très vigilants. Ils ont laissé tomber l'autorité. Et depuis lors, le diable agit. Au temps de Hérode, pareil. Vous pensez qui était dans Hérode pour tuer tous les enfants ? En Égypte, c'était pareil. Vous savez qui était dans le Pharaon pour tuer les enfants qui cherchaient Moïse. Donc l'esprit n'a pas changé. C'est les générations qui changent. Mais l'esprit reste le même. Et donc pour dire que le système de bataille n'a pas changé. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Et quand on aura abordé le troisième ciel, j'aborderai le combat spirituel que j'ai déjà abordé depuis 7 ans. Et je trouve que cette prédication était prématurée. Il n'y a pas de préacquis pour permettre de comprendre ça. Mais cette fois-ci, vous avez le chemin. On va revenir sur la bataille spirituelle avec les différentes armes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de considérer votre vie, de résister aux assauts de l'ennemi, d'avoir du discernement pour observer qu'est-ce qui relève du plan du diable et des ténèbres et qu'est-ce qui relève du plan de Dieu. Ça nous aiderait à nous protéger, protéger nos familles, protéger l'Église du Seigneur et permettre à l'Église de Christ d'être l'Église de Jésus. Sinon, l'Église existerait, mais il ne sera pas l'Église de Jésus. Tiens, ah oui, il y a des églises qui existent, mais qui ne sont pas des églises de Jésus parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et c'est ce que l'ennemi veut faire, nous pousser hors du sentier pour que nous ne mettons pas notre foi dans la vérité et que nous nous disions Église par illusion, alors que nous ne sommes pas dans la vérité. Ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier tout ce qui en fait la force. Notre force, c'est la vérité. Je nous invite à la prière.